Mon observation de l'histoire m'a appris que ceux qui fondent leur comportement sur une détestation systématique de l'Occident dérivent généralement vers la barbarie, vers la régression, et finissent par se rabougrir et se punir eux-mêmes. Je ne pense pas pour autant que toutes les idées, les modes, les machines ou même les valeurs que l'Amérique et l'Europe ont déversées sur le monde ont été bénéfiques. On y trouve le meilleur et le pire, et ce n'est jamais une bonne attitude de tout accepter, tout adopter, tout copier sans discernement. De ce fait, il est indispensable de s'ouvrir également à d'autres contributeurs venus de traditions différentes et qui ont su démontrer la valeur de leur génie propre. C'est certainement le cas de l'Asie orientale qui, tout en intégrant divers éléments de la civilisation occidentale, apporte à celle-ci des correctifs nécessaires. Les succès enregistrés par les sociétés de tradition confucéenne en matière d'économie, comme en matière d'éducation, font d'elles des sources d'inspiration et des exemples à méditer attentivement. Y compris en Occident, où l'on a trop tendance à considérer comme accessoire et superflu, voire bêtement folklorique, tout ce qui vient d'ailleurs. Il y a notamment une question qui me paraît fondamentale, celle du rapport à la religion. Dans les pays de tradition monothéiste, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ainsi que dans le monde hindouiste, ce rapport se révèle de plus en plus pernicieux. Surtout en raison du lien malsain qui s'y est établi entre religion et identité. Je ne nierai pas que la tragédie de mon pays natal, le Liban, me rend plus sensible à cet aspect des choses. Mais je serais arrivé à la même conclusion si j'étais né au Nigeria, en Irlande, en Inde, en Afghanistan, en Bosnie, ou tout simplement dans ma patrie adoptive, la France. Les déchaînements identitaires, en particulier ceux qui s'appuient sur une référence divine, empoisonnent l'existence de la plupart des sociétés humaines et ils ne cessent de s'aggraver. À l'inverse, dans les pays d'Asie orientale, l'identité ne s'appuie pas sur la religion. Cela ne suffit pas à les protéger du fanatisme et des poussées d'intolérance, mais cela les prémunit contre l'ingrédient le plus toxique des haines de notre époque. En Chine, le docteur Sun Yat-sen, fondateur de la République, et qui est la seule personnalité politique à être vénérée aussi bien à Pékin qu'à Taipei, s'était converti dans sa jeunesse au protestantisme, et cela n'a aucunement compromis son image de patriote, ni sa carrière politique, ni sa place dans l'histoire de sa grande nation. Au Japon, une même personne peut pratiquer le bouddhisme, le shintoïsme, le confucianisme et le catholicisme sans avoir à se justifier auprès des autorités, de la famille, ni auprès du Créateur. Et en Corée du Sud également, le christianisme, qui est devenu par le nombre de ses fidèles la première religion du pays, coexiste sans violence avec le bouddhisme, le taoïsme et les pratiques ancestrales. À plusieurs reprises dans ce livre, j'ai évoqué Confucius, en soulignant parfois les éléments controversés de son héritage, tels son conservatisme social, qui a longtemps servi de justification à l'isolement de la Chine et à l'immobilisme de ses dirigeants. Mais il y a un apport essentiel, que nul ne peut lui contester. Celui d'avoir inculqué, une fois pour toutes aux innombrables personnes qui le vénèrent, que ce qui importe pour un citoyen, c'est son comportement dans la cité, pas ses préférences métaphysiques. Il n'est pas honteux pour les civilisations, même les plus glorieuses et les plus florissantes, de se mettre parfois à l'école des autres. L'Asie orientale ne s'est-elle pas constamment inspirée de l'Occident pour réussir sa modernisation? Sur la question du rapport entre religion et identité, c'est indéniablement le reste de l'humanité, à commencer par l'Occident et le monde arabo-musulman, qui devrait se mettre à l'école de l'Asie orientale.